Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain? Eh bah croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on reçoit une ancienne sportive de haut niveau qui s'est reconvertie dans l'entrepreneuriat de haut niveau. Elle est à fond sur les deux sujets, elle continue à courir, elle continue à s'entraîner et puis elle a une banane, un sourire qui fait plaisir. Peut-être que vous regarderez ça en vidéo si j'ai l'autorisation de diffuser ça en vidéo. Enfin, bref, je suis très content de recevoir Coralie Gassama. Salut Coralie.
Salut Armano, merci beaucoup de m'accueillir.
C'est un plaisir. Tu dois être rodée un petit peu à l'exercice de l'échange, de la conversation avec les journalistes dans le cadre de ta start-up, non ?
C'est vrai que depuis quelques années, je commence à avoir un peu plus l'habitude et c'est un bel exercice. Donc, c'est toujours bien pour la visibilité de l'entreprise et puis pour prendre de l'expérience dessus.
Bon, bah, là, t'es pas avec un journaliste, donc on va y aller cool. Tu vois, on est à la table d'un café, on prend une petite boisson fraîche, non alcoolisée évidemment, parce qu'on est des sportifs, et puis on discute. Ça te va comme ambiance ?
C'est parfait.
Coralie, la première question que je pose à tous mes invités, elle est très simple. J'ai envie de tout savoir. Donc, dis-nous tout. Qui est Coralie Gassama ?
Alors, du coup, je suis une jeune femme de 26 ans, originaire de Normandie. Je suis née à Évreux.
Normandie en force.
Je suis née à Évreux. Alors, souvent, je dis que je suis originaire de Normandie, avant de dire Évreux, parce que les gens ne placent pas forcément Évreux sur une carte. Mais du coup, Évreux, où j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans. Voilà, je suis la fille d'une institutrice et d'un père ancien footballeur professionnel du Sénégal. J'ai une grande sœur, un demi-petit frère. Et puis, j'ai toujours fait du sport. Le sport fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Dans la famille, de toute façon, le sport fait partie de notre vie. Et voilà, je suis métisse franco-sénégalaise aussi et... Voilà.
C'est super. C'est pour ça le beau teint, la banane et tout. Moi, mes enfants sont métis franco-italo-malgaches de Madagascar.
Oh, c'est donc, beau ça. Ouais.
En général, je demande aussi comment est-ce que tu as découvert le sport ? Donc là, tu nous dis toute petite, avec un papa ancien footballeur, forcément, tu as dû jouer avec le ballon quand tu étais petite.
Non.
Qu'est-ce qui t'a amené à l'athlétisme ?
Non, mes proches savent très bien que le ballon et moi, on n'est pas amis. Non, mon père, ma sœur et moi, il ne nous a jamais vraiment rapprochés du football et donc du ballon. Par contre, effectivement, on a été plongés dans le sport très rapidement. Je pense parce qu'on avait énormément d'énergie, ma sœur et moi. C'était obligatoire, en fait, pour ma mère, pour nous canaliser. Et moi, ce qui m'a vraiment... mis dans le sport, c'est une association dans laquelle j'étais quand j'étais toute petite. Donc, je pense que c'était vraiment avant 6 ans, entre 5 et 7 ans, avant de pouvoir avoir une licence d'athlétisme. J'ai été dans une association où on pratiquait tous les sports toute l'année. Ça passait du roller au tennis de table, au basket, au judo, à l'athlétisme. Enfin, voilà. Du coup, chaque semaine ou toutes les deux semaines, on avait des nouveaux sports. Et c'est là où je pense que on a décelé le fait que j'aimais bien le sport et en tout cas je m'en sortais bien dans certaines disciplines.
Attends, il y a un truc, je comprends pas. Tu nous dis que le ballon et toi, ça va pas ensemble. Pourtant, tu nous dis que avant tes 7 ans, t'étais dans une association multisport et tu faisais tous les sports. Comment tu faisais quand tu t'étais confronté à des sports de balle? Parce que sport de balle, il y a le volley, il y a le basket, il y a le foot, il y a.
Alors oui, je l'ai pas bien précisé. Pas forte avec les sports de balle au pied, donc le football, okay. Clairement.
Il y en a pas beaucoup.
Moi, c'est ça. Bon, après, je suis pas sûre que je sois la meilleure non plus en basket, mais c'était pas forcément mes sports de prédilection. C'est vrai que j'ai très vite été plus attirée vers les sports individuels, même si j'ai pratiqué des sports collectifs, notamment dans les associations scolaires, UNSS, etc. J'ai quand même été beaucoup plus attirée par les sports individuels, escalade, gymnastique, natation, athlétisme.
Qui sont des sports individuels, mais où on concourt aussi parfois en équipe.
Totalement. Et d'ailleurs, au-delà des concours en équipe, en athlétisme, souvent c'était les relais. Dans tous les cas, je ne me suis jamais sentie vraiment seule, en fait, parce qu'on s'entraîne toujours avec un groupe d'entraînement et il y a vraiment une notion d'équipe qui est hyper importante, même dans ces sports individuels.
Bon, bah, finalement, on n'est pas encore à la fin de l'épisode, mais on reboucle aussi sur ton autre facette, celle d'entrepreneur. Patronne de start-up, donc c'est un peu un sport individuel parce que c'est toi la patronne, mais ça reste un sport d'équipe parce que c'est toute une entreprise à faire aller d'avant.
Ouais, totalement. Ça, c'est sûr que parfois, il y a des moments où on se sent assez seul. Voilà, en plus, je suis seule fondatrice associée. Alors, j'ai des actionnaires, mais opérationnellement, je suis seule. Mais en fait, je ne fonctionne pas toute seule. J'ai une équipe en interne, j'ai des personnes qui me soutiennent, des partenaires qui me soutiennent et qui m'apportent des connaissances et voilà, des compétences. Donc, non, c'est sûr, c'est exactement comme un sport individuel, sauf qu'en fait, derrière, il y a tout un staff, comme le sportif de haut niveau dans son sport individuel.
On y reviendra notamment sur les ponts qu'il peut y avoir entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Petit clin d'œil aussi parce que le sport de ballon au pied, donc le foot, c'est pas trop ton truc. Par contre, tu parlais de tes associés tout à l'heure. Tu viens quand même de dévoiler. Alors, on enregistre fin janvier, mais l'épisode sortira beaucoup plus tard, donc ce sera déjà bien largement dans la presse. Mais t'as quand même fait rentrer dans tes actionnaires un footballeur.
Oui, exactement. Hier, on l'a annoncé, Dayo Upamecano, qui est l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe de France et du Bayern de Munich, vient de rentrer dans l'actionnariat de Kayena. D'ailleurs, on est des amis, on se connaît depuis qu'on est jeunes et surtout, il y a un lien avec nos parents. Nos deux pères se connaissent particulièrement et c'est même mon père qui a permis à Dayo de rentrer dans le club d'Evreux, là où il s'est fait ensuite repérer pour aller dans les centres de formation. Donc, il y a un lien qui va au-delà du sport, même si le football est aussi un sport sur lequel on s'interroge. En tout cas, on prendra le temps de s'interroger dans quelques années. Mais aujourd'hui, l'association avec Dayo, elle est vraiment plus liée au fait qu'on a on a des ambitions communes, on a un passé commun on avait envie de s'associer et de montrer que en tant que jeune et sportif, on est capable de s'investir dans l'économie de nos sports.
Wow. Bravo pour ça et puis bon courage pour la suite. On reviendra tout à l'heure sur la start-up, sur les objectifs, sur les plans, etc. T'en as dévoilé un petit peu en disant que le foot, ça vous intéresse aussi, mais on va revenir là-dessus. Restons un peu sur toi. Donc, toi, tu découvres le sport finalement, au sens large, quand tu es jeune, de 5 à 7 ans, tu es dans une association multisport, tu pratiques tous les sports, en te cachant quand c'est le moment de pratiquer le foot. J'imagine que tu es allé sur le terrain d'à côté pour faire autre chose. Comment tu arrives à l'athlétisme, finalement ?
Alors, à la fin de ces années multisports, en fait, les animateurs, ils décèlent les aptitudes des jeunes envers certains sports. Donc, il me semble que lors de mon bilan, avant de sortir de l'association, parce que c'était limité dans le temps, les animateurs disent à ma mère, il semblerait qu'elle ait des compétences pour la gymnastique et l'athlétisme. Et à cette époque-là, il y a aussi ma sœur qui pratique déjà l'athlétisme, qui a 4 ans de plus que moi, et qui est déjà dans le club de l'Evreux AC. Donc, c'est arrivé assez naturellement, finalement, d'y aller. Sachant que ce qui est assez drôle, c'est que j'étais très impatiente de commencer l'athlétisme et finalement, pas du tout de la gymnastique. Ma mère voulait m'inscrire et la première fois où on y a été, j'ai pas aimé. Et au final, après, pendant 10 ans, j'étais folle amoureuse de la gymnastique. Je faisais 10 heures par semaine et l'athlétisme beaucoup moins. J'allais quasiment pas m'entraîner, je faisais juste les compétitions. Et au final, après, ça a rebasculé dans l'autre sens.
Attends, parce que 10 ans, de 7 à 17, tu étais folle de gymnastique, et puis à 17, tu rebascules vers l'athlétisme, et c'est là où tu, finalement, on grille un peu les étapes, mais tu deviens sportive de haut niveau à 17 ans.
Ouais, en fait, la gymnastique, c'était génial parce qu'il y avait mes amis, je passais 10 heures par semaine là-bas, et puis je progressais énormément, mais... La gymnastique, je l'ai commencé assez tard, 7 ans, c'est tard. Et du coup, en fait, on se rendait compte qu'en athlétisme, avec très peu d'entraînement, bah, j'avais plus de réussite. En fait, je gagnais beaucoup plus de courses, de compétitions. Donc, à un moment où je crois qu'en... Voilà, vers mes 17 ans, même avant, je fais des compétitions et je décroche ma première sélection en équipe de France avec quasi peu d'entraînement. Bah, on se rend compte qu'il fallait mieux miser sur l'athlétisme plutôt que la gymnastique. Donc, ça s'est un peu fait comme ça, le choix.
Bon, il y avait aussi l'entraînement croisé. Tu travaillais beaucoup en gymnastique. Ça portait des bienfaits sur la partie athlétisme.
Ouais, totalement. Même s'il y avait quelquefois des oppositions, typiquement en athlétisme on faisait des montées de genoux avec les pointes de pied levées, et à la gymnastique c'était l'inverse. Donc des fois il y a une année où je m'entraînais le samedi matin, je faisais des côtes en athlétisme avec mon groupe d'entraînement, et l'après-midi j'allais aux entraînements de gymnastique. Alors là fallait une coordination pas possible. Je me rappelle de ma prof qui disait les pointes de pied, Coralie, les pointes de pied. Ah oui, c'est vrai.
Bon, mais on l'a pas dit, ta spécialité c'est le 400 mètres haies. Est-ce que ça explique pourquoi quand tu sautes les haies, finalement t'es large, t'es très haute, limite tu pourrais faire un salto quand tu passes les haies?
Alors c'est pas bon signe si tu penses que je passe au-dessus des haies, parce que justement les haies il faut les franchir et non pas les sauter, mais non, normalement je devrais pas passer beaucoup au-dessus, mais il y a des photos de moi où on voit que je suis bien au-dessus.
Non, mais c'était pour faire le petit lien avec la gymnastique. Ouais. De toute façon, le coup du salto au-dessus des haies, ça marche pas. L'objectif c'est de courir le plus vite possible, et t'as pas le temps de, entre guillemets, perdre du temps en faisant un joli salto.
Ouais, totalement, j'ai pas essayé d'ailleurs.
Donc un petit peu avant 17 ans, tu décroches ta première sélection en équipe de France, donc là c'est en jeune.
Oui.
Tu nous disais tout à l'heure que tu t'es rendu compte que tu étais plus performante en athlétisme qu'en gymnastique, malgré la différence en termes de temps d'entraînement entre la gymnastique et l'athlétisme. Et tu nous as dit, une petite phrase qui m'a marqué, on s'est dit qu'il valait mieux capitaliser sur l'athlétisme. Pourquoi en fait? Ton objectif c'était de devenir la meilleure coureuse de 400 mètres de haies du monde, d'aller au JO?
Oui, j'ai longtemps travaillé pour me qualifier pour les Jeux Olympiques. Alors à l'époque, j'étais la génération JO 2020. C'était mon rêve. Hein. Ça a toujours été mon rêve quand je me suis impliquée dans l'athlétisme. J'ai énormément travaillé pour ça. Et après, le 11, c'est ma mère et moi. Et puis après aussi avec les entraîneurs d'athlétisme. Je me rappelle très bien ma coach à l'époque. Elle s'appelle Émilie Delaune. Elle a tout fait pour me faire tenir, enfin, rester licenciée à l'athlétisme, parce qu'à un moment, je voulais vraiment arrêter pour me consacrer à la gymnastique. Donc, c'est une des personnes qui m'a permis de continuer ma carrière, d'ailleurs.
Et au final, tu la remercies. Est-ce qu'elle a tiré la bonne carte? Est-ce qu'elle a bien fait de faire ça pour toi?
Ah bah oui, elle a totalement bien fait. J'essaie de lui montrer ma reconnaissance chaque année, parce que au-delà de ce que ça a apporté à ma carrière, c'est humainement, j'ai vécu des choses extraordinaires. C'est l'athlétisme qui m'a fait voyager. Je crois que j'avais pas pris l'avion avant ma première sélection en équipe de France. J'ai rencontré aujourd'hui mes meilleurs amis actuels. Ça m'a apporté énormément sur la vie. Ça m'a donné le goût de parler en anglais. Enfin. C'est pour moi, même si aujourd'hui j'ai un peu de regret de ne pas avoir de carrière plutôt senior, professionnelle, en fait, je ne regrette rien de me dire que j'aurais vécu ça jeune, et ça m'a construit, donc j'ai aucun regret.
On rentre dans le sujet. Pourquoi est-ce que tu n'as pas continué? Pourquoi tu n'as pas construit ta carrière? Pourquoi tu n'as pas été au JO? Et pourquoi on ne t'attend pas à Paris, là, en tout cas sur la piste, dans quelques semaines?
Eh bien, en 2018, je change de groupe d'entraînement. On se sépare avec mon coach que j'avais rejoint à 17 ans à Lyon, mais je reste à Lyon, et je commence un nouvel entraînement avec un nouvel entraîneur où on décide de faire une saison sur 800 mètres l'hiver, parce que avant d'être sprinteuse 400 mètres et je venais du demi-fond, je faisais énormément de cross, enfin voilà, j'avais une caisse, du coup j'étais quand même, enfin voilà, c'était une discipline qui m'allait bien. On décide de faire une saison dessus, et en fait à la fin de la saison où j'avais couru pas mal de 800, j'ai une blessure qui, le syndrome de l'essuie-glace qui a apparaît au niveau du genou gauche, et derrière je fais peu de repos avant de repartir à l'entraînement pour la saison estivale, Et là, en stage d'entraînement, je déclenche une grosse périostite qui s'est transformée en fait de façon fulgurante en fracture de fatigue sur le tibia. Donc, fracture de fatigue, c'est une blessure où il faut juste du repos, s'arrêter pour que l'os se régénère. Et malgré le repos que j'ai pris à l'époque, la première fois, j'avais pris 3 mois. Je reprends en septembre, j'ai à nouveau mal. Je force un petit peu pendant 3 mois, donc pas très intelligente la sportive. je force.
Et puis on est toujours plus intelligent après.
Ah oui. Malgré l'expérience, ça, des fois on réfléchit pas plus. Et du coup, en décembre, j'ai à nouveau mal, donc je m'arrête. Et en fait, je fais ça pendant 3 ans. Je m'arrête, je reprends, je m'arrête. Et du coup, je ne fais pas de compétition. Je décide de me faire opérer en 2022 ou 2021, je sais plus. 2022, je crois. Et donc, on me met un clou dans le tibia, on me coupe le péroné. Enfin, c'est une opération assez, assez conséquente. Et finalement, on me réopère derrière pour m'enlever le clou parce qu'il me fait mal à la cheville. Enfin bref, un bazar total. Et derrière, j'essaye de reprendre et en fait, j'y arrive pas. Sauf qu'à ce moment-là, il y a quand même 4 ans qui viennent de se passer. Je me suis éloignée des pistes, de la compétition. Il y a eu beaucoup de doutes qui se sont installés. Et puis, j'ai vu surtout mes meilleures années, on va dire. C'était quand même les années où on est sûrement au top. Je les ai vues passer. Et du coup, j'ai retenté en 2023. J'ai retenté et ça a pas fonctionné. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de difficultés à pouvoir courir, faire des footings, m'amuser en tout cas en course. Donc, j'ai mis fin à ma carrière là en mai 2023, officiellement.
Bon, mais tu t'es concentré sur autre chose. Après, tu sais, plus tu prends de la sagesse, je dirais pas de l'âge, mais de la sagesse, et plus tu peux t'éclater sur de l'endurance. Il n'y a pas d'âge pour ça.
Ouais, mais pour l'instant, l'endurance, je peux même pas, en tout cas en course.
On te souhaite que ça aille mieux. Donc, on comprend mieux en fait que tu aies mis un terme à ta carrière officiellement en mai 2023. En réalité, ça faisait déjà quelques années que tu essayais de te battre contre cette blessure. D'ailleurs, tu nous as dit fracture de fatigue. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un abus de langage. En fait, l'os n'est pas cassé, l'os est fêlé et c'est ça qui crée des douleurs. Moi, j'en ai eu une au niveau des phalanges.
Pas top, le pied aussi.
Mais en fait, il n'y a rien qui est top. Le pied, le tibia, la cuisse. Tout ce que tu veux. Au final, on a besoin, la machine humaine, le corps humain est quand même une sacrée machine qui fait qu'on a besoin de tout. Mais bon.
Alors moi, ce qui était drôle, c'est que mon chirurgien, il m'avait dit, j'aurais préféré que tu te fasses une fracture ouverte, parce que là, c'est sûr que le corps régénère beaucoup mieux l'os. Ouais. Je lui ai dit, je vous aime bien, mais je suis quand même pas prêt à passer à cette étape-là. Mais franchement, des fois, j'y pense.
Et c'est pas pour ça qu'ils ont coupé un bout de péroné pour mettre une vis, pour que ça se régénère un peu mieux?
Non, parce que le péroné, c'était pour éviter qu'il fasse béquille à mon tibia.
Intéressant. mais c'est vrai, regarde, alors ceux qui courent ne connaissent peut-être pas ça, ou ceux qui font pas des sports qui sollicitent la chaîne inférieure, mais par exemple, quand il y a eu... Et il y a encore un petit peu de trop, je trouve, cette fameuse façon de guérir avec des électrochocs. Donc en fait, on crée des lésions au niveau des tissus mous pour que ça se régénère. Donc effectivement, parfois, il vaut mieux une bonne grosse fracture ouverte qu'une petite fracture de fatigue, entre guillemets. Anyway, donc t'as laissé un petit peu, par la force des choses, le sport de côté. En revanche, t'en as profité pour te concentrer sur autre chose, les études et puis un projet entrepreneurial.
Ouais, totalement. Et en fait, il a un peu arrivé en parallèle. Enfin, il arrive un petit peu avant la blessure. Et honnêtement, heureusement que Keyena est née à ce moment-là parce que ça m'a permis d'être occupée et puis de digérer un petit peu mieux le deuil de l'athlétisme.
Keyena, voilà, c'est le nom de ta start-up. C'est ton bébé, mais c'est pas ta fille. C'est ton bébé, c'est ta start-up. C'est cette fameuse société que tu as lancée, où tu maturais l'idée déjà un petit peu avant que la blessure arrive. Tu peux nous raconter l'histoire de Keyena et puis le pain que vous guérissez, pour ainsi dire.
Ouais, totalement. Donc Keyena, c'est une société que j'ai créée en 2020. J'avais 21 ans. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai eu un cours d'entrepreneuriat en master. Donc moi, j'ai fait des études STAPS, un master management du sport. Et donc en master 1, on a un cours d'entrepreneuriat, il faut développer une idée, un business plan. Et à ce moment-là, je passe 70% de mon temps sur une piste, je vis athlétisme, je mange athlétisme. Donc très vite me vient cette problématique qu'en fait, j'avais depuis longtemps, que je savais énormément d'athlètes avaient, on en avait déjà parlé entre amis. On s'était toujours dit comment ça se fait qu'il n'existe rien pour nous permettre de marcher en dehors des pistes avec nos pointes. Parce que la fameuse marche du pingouin ou du canard, c'est vraiment ce qui caractérise les athlètes quand ils se déplacent en dehors de la piste avec leurs pointes. Donc, pour le cours d'entrepreneuriat, je développe cette idée, je fais un business plan, j'imagine un produit. Et en fait, mes profs sont assez s'interrogent et se disent « Mais t'es sûr que ça n'existe pas ?» Parce que ça fait sens, en fait. Donc, il m'invite à pousser ma curiosité un peu plus loin. Et c'est ce qui se passe. Je crois que le premier move que je fais, c'est que je vais voir l'INPI pour voir s'il existe, en fait, un tel produit ailleurs qu'en France.
L'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, c'est la garante des marques en France et de la propriété intellectuelle au sens large.
Oui, c'est ça. Ça apprend les marques, les modèles, les brevets. Et donc, l'aventure commence un petit peu à ce moment-là où, en fait, je suis assez curieux. Je me dis, cette idée, pourquoi elle n'existe pas ? Ce que j'ai dans ma tête, potentiellement, ça pourrait intéresser. Et derrière, je rencontre un bureau d'études et on développe la première sursemelle de protection pour les pointes d'athlétisme. Donc vraiment, c'est une surchaussure qui va venir en dessous des pointes. Donc les pointes d'athlétisme, c'est la chaussure technique avec des clous à l'avant qui permettent aux athlètes d'optimiser leur adhérence à la piste quand ils courent, sautent ou lancent. Et donc, nous, on vient en dessous pour protéger et surtout rééquilibrer le pied et permettre aux athlètes de marcher plus confortablement avec. Et c'est même un outil de rangement. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu au début. C'est les athlètes qui me disent « Ah bah moi, ça m'est arrivé plein de fois de percer une bouteille d'eau, une canette, trouer mes affaires dans mon sac. » Et du coup, ça paraît comme un outil de rangement aussi maintenant.
Ouais, puis même après, quand tu les ranges proprement à la maison, à côté de tes 872 autres paires de course à pied, de pointes et autres, au moins, elles tiennent droit. Ouais. Elles ne sont pas à moitié à cheval.
Totalement.
C'est tout bête, en fait, comme tu le dis, mais ça fait carrément du sens. Et il n'y a pas que l'athlétisme, en fait, qui pourrait bénéficier de cette solution-là, de cette innovation.
Eh bien, c'est vrai que l'histoire, c'est que je me suis inspirée du patinage artistique. En fait, le patinage artistique, quand ils sortent de la patinoire, ils enfilent un couvre-lame. Donc moi, je me rappelle, c'est la première recherche.
C'est pas pour autant qu'ils marchent pas comme des pingouins, hein, parce que pour le coup, le couvre-lame, ça n'empêche pas de marcher mal.
Oui, et puis je pense qu'il faut quand même garder l'équilibre à ce moment-là. mais du coup, je me suis inspirée de ce sport-là. Et après, j'ai vraiment développé ce produit en me disant, voilà, je vais faire un produit pour l'athlétisme. Et en fait, petit à petit, on a des retours, des personnes. Plus notre visibilité augmente, plus on a des personnes qui nous écrivent. Et un jour, il y a des cyclistes de route qui nous écrivent pour nous dire est-ce qu'on peut utiliser votre produit ? Parce que moi, ça m'arrangerait bien quand je descends mes escaliers de mon immeuble à Paris ou quand je vais faire un call avec des amis. Enfin, et donc là, moi, je prends une petite claque parce que déjà, à ce moment-là, je connais pas beaucoup le cyclisme de route. J'avais jamais vraiment vu d'écale. Et puis, je me rends compte qu'en fait, la problématique qu'on a dans l'athlétisme, elle se retrouve dans d'autres sports. Donc, forcément, le cyclisme fait partie des sports qu'on envisage de développer. Je sais aussi que dans le bobsleigh, alors le bobsleigh, c'est une discipline, enfin, c'est un sport particulier. Hein, il n'y a pas beaucoup de pratiquants dans le monde, mais eux, ils ont 200 clous en dessous de leur pointe, enfin, de leurs chaussures. Et après, il existe aussi des crampons, toutes sortes de chaussures techniques pour le sport qui peuvent présenter des problématiques d'inconfort à la marche, comme en athlétisme.
Ouais, parce que finalement, enlever les chaussures pour marcher, ça marche bien dans les pays où il fait chaud. Mais si on prend l'exemple de la France, tu peux pas toujours te permettre de finir pieds nus après ta séance.
Voilà, c'est ça. Forcément, il y a des moments où les athlètes, ils sont bien contents aussi d'enlever leurs pointes et ça leur va très bien. Nous, notre produit, les sursemelles à K1, c'est une solution pour gagner du temps, pour gagner en confort ou des moments où on n'a pas le temps, où on n'a pas envie de les enlever. Et en fait, ça arrive bien plus souvent qu'on pense. La plupart des gens, d'ailleurs, aujourd'hui, qui en achètent, ils me disent « Ah bah, je vais en prendre une paire maintenant parce que j'ai pensé à toi la semaine dernière quand j'ai eu telle ou telle situation. »
C'est le meilleur moyen de faire de la com, hein, c'est de montrer le produit une fois et puis après se rendre compte qu'effectivement, il y a un pain, il y a quelque chose, il y a un problème à résoudre. Donc, on pense à Cayena et puis après, le bouche à oreille, il fait le reste.
Ouais, totalement.
Là, ton produit, tu l'as conçu et développé et vendu en France. Vous en êtes où là maintenant dans la commercialisation du produit et dans le développement de la société ?
Oui, c'est vrai qu'on l'a conçu avec un bureau d'études français. Notre usine est en France, elle est à 30 minutes de Lyon. Et en fait, on a vendu en France majoritairement au début, mais notre site internet était déjà ouvert sur l'Europe. Aujourd'hui, il y a des solutions de transport qui permettent très rapidement très facilement de vendre à l'étranger. Donc, à ce stade, là, ce mois de janvier, on va arriver à la fin. Je pense qu'on est à un peu plus de 2300, 2400 paires vendues, majoritairement en France, mais on a quand même un poids important dans les autres pays d'Europe. Et puis, on travaille aussi avec des revendeurs. Donc, on en a deux en France, comme Iron et Alltrix. Et puis, on a le plus gros revendeur européen qui est Top for Running, qui lui vend partout dans les pays européens et notamment des pays de l'Est, mais pas que, vraiment la France, l'Espagne, le Portugal aussi. Et du coup, on commence à être assez présent en Europe, mais c'est assez drôle parce que je sais que dans ma région, il y a encore plein de gens qui n'ont jamais entendu parler du produit ou jamais vu.
Ouais, mais ça va changer. Déjà, j'espère. Avec votre investisseur, vous allez aussi attaquer le monde du football, du coup, vous n'allez pas avoir le choix, parce que dans le football, il y a des crampons.
On s'engage pas trop parce que moi, ce que j'ai fait pour l'athlétisme et ce que je vais faire pour le vélo, c'est vraiment m'intéresser aux usages. Je fais vraiment de l'innovation par les usages. Et donc, certes, il y a des crampons. Certes, c'est pas non plus la chaussure la plus confortable, mais il faut vraiment voir quel est l'usage du footballeur, l'amateur, le semi-professionnel, le professionnel, pour savoir s'il y a un réel besoin et des attentes. Donc, je m'y aventurerai pas tant que j'aurai pas étudié les usages et l'environnement football. Et c'est pas pour maintenant parce que je suis déjà bien occupée, mais c'est vrai que en tout cas je me l'interdirai pas si on sent qu'il y a un potentiel.
Pour revenir sur la surchaussure, pas celle d'athlée, parce qu'on voit bien les pointes d'athlée, hein, les crampons sont à l'avant, mais sur la surchaussure de vélo, vous vous adapterez à tous les types de cales, parce que pour avoir fait un peu de vélo, il y a les cales look qui sont triangulaires et puis il y en a qui sont plus fines, en métal, en plastique, etc. Vous vous adaptez à tous les types de cales ?
Alors, on va pas s'avancer parce qu'on est en plein développement, mais par contre, oui, aujourd'hui, c'est la même façon dont je vois le marché de l'athlétisme. On va être obligé, et c'est pour moi un facteur clé de succès de pouvoir s'adapter aux différentes cales et aux différentes marques, comme on l'a fait dans l'athlétisme. Il y a un vrai enjeu sur les tailles, les formes et les disciplines des chaussures.
On suivra tout ça avec attention. Quel pont tu fais, toi, entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat ? Ou inversement, parce que tu cours toujours. Donc, même si tu n'es plus officiellement athlète de haut niveau, je pense qu'il y a des moments où tu dois quand même faire des ponts entre l'un et l'autre.
Ouais, totalement. Et puis, c'est encore pas si loin, quoi, ma carrière d'athlète de haut niveau. j'ai vieilli, mais ça va encore, je me rappelle bien. Non, totalement. C'est vrai que je m'en suis rendu compte de plus en plus ces deux dernières années, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans l'athlétisme, et c'est véritablement ce qu'on vit dans une carrière d'athlète de haut niveau, et j'ai envie de dire même dans la vie. Hein. On n'a pas besoin d'être athlète de haut niveau ou entrepreneur pour se rendre compte qu'il y a des hauts et des bas. Mais par contre, c'est vrai que d'avoir été construite dans le sport de haut niveau, me permet aujourd'hui, je pense, dans mon métier, d'avoir cette détermination, cette abnégation, je dirais même, et puis de pouvoir m'adapter. Je pense que, et notamment le 400 mètres et qui est une discipline d'adaptation, je vois bien que, en fait, dans l'entrepreneuriat, je m'adapte aux obstacles qui arrivent, même s'il y a du vent, même s'il y a des choses positives ou non, je suis obligée de m'adapter et je vais de l'avant tout le temps. Je fais en sorte d'aller de l'avant parce que je me suis rendu compte très vite que il y a toujours des solutions. Et que surtout, c'est vraiment une question de point de vue. Donc, je trouve qu'il y a un énorme parallèle entre les deux.
Et d'autant plus que toi, tu as connu la blessure. Donc, il y a aussi la résilience face à la blessure. Et on pourrait faire le parallèle avec l'entreprise. Une levée de fonds qui se fait, une autre qui se fait pas. Ouais. Un client potentiel, un revendeur potentiel qui te vend monts et merveilles. Et puis finalement, chlac, ça s'arrête juste avant de démarrer. On peut faire le parallèle avec la blessure dans le sport, non ?
Ouais, totalement. En fait, c'est même la frustration. La frustration dans le sport qu'on connaît quand on se blesse ou on a fait une mauvaise performance. Il n'y a rien de pire que de finir une compétition, d'avoir fait une contre-perf, de rentrer dans la voiture avec son coach, personne ne parle. et c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Tu sais que là, ça ne va pas, que ça va te ralentir, que ça va même peut-être impacter ton développement. Mais voilà, tu digères, Moi, je me laisse toujours 24 heures, je digère. Et par contre, derrière, faut vraiment rebondir. C'est obligatoire pour moi.
C'est tout à ton honneur d'avoir cette maturité, cette clairvoyance, cette clarté d'esprit. Et c'est ce que je dis souvent aux invités que je reçois, c'est que le fait d'avoir été sportif de haut niveau ou même de l'être encore, on a l'impression que vous avez vécu déjà 2, 3, 4, 5 vies et que vous avez énormément gagné en maturité.
Je pense que c'est vrai que on dit toujours le sport, c'est de l'école de la vie. Dans l'athlétisme, on disait que c'était le cross et pour en avoir fait, je le confirme. Mais c'est vrai que le sport nous fait accélérer sur certaines choses, certaines compétences, personnalités aussi. Honnêtement, ça nous construit énormément. Je suis passionnée de sport de façon générale et je vois les vertus du sport. Alors après, il y a aussi les côtés assez négatifs, mais pour autant, je pense que ça a énormément de vertus. Et ça rassemble.
Ouais, on va se concentrer sur les côtés positifs.
Allez.
Et puis, moi, un autre côté positif que je vois aussi, c'est que contrairement à l'état d'esprit qu'on a plutôt en Europe vis-à-vis de l'échec, vis-à-vis de la contre-performance, finalement, c'est ultra formateur. Et puis, c'est l'essence même du sport. Tu ne peux pas gagner tout le temps. Donc, tu apprends à être confronté à ça, ouais. À l'échec, à rebondir et à cette fameuse résilience.
Ouais, totalement. Je me rappelle très bien, moi, quand tu dis ça, ça me rappelle des échanges que j'avais eus avec mon coach et puis j'avais vu ça aussi en cours. Le simple cycle d'entraînement et la référence de l'échec et de la réussite. C'est-à-dire que un cycle d'entraînement, pour pouvoir progresser, il faut avoir une courbe ascendante, puis une courbe descendante pour ensuite repartir vers un pic de forme. Pic de forme, ouais. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas,
oui,
moi, c'est comme ça que
l'entraînement
je le vois.
Polarisé.
Ouais, c'est ça. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il va y avoir des moments où on va être au top, mais derrière, pour se reposer des questions, pour se questionner et reperformer, entre guillemets, on est obligé de passer par des périodes un peu plus standards ou d'échecs, si j'aime pas trop ce mot.
Ouais, avec la seule différence, c'est que dans le sport, en général, on s'accorde une fois dans la saison une vraie pause de quelques jours, de quelques semaines, quelques semaines. On va s'arrêter là. Dans l'entrepreneuriat, tu peux pas. T'es obligé d'être tout le temps ouvert.
Ouais, ça c'est vrai que c'est peut-être la vraie différence entre les deux. Le sport, nous c'était le mois d'août quand on n'est pas en compétition internationale. Tu coupes vraiment, tu vois ton corps changer, donc c'est pas terrible, mais tu coupes et tu sais que au moins tu le reprendras avec l'envie. L'entrepreneuriat, moi c'est un gros pain point chez moi, c'est que j'ai vraiment du mal à couper. Pour deux raisons. D'une, parce que c'est vraiment mon bébé et j'y pense un peu tout le temps. Et puis l'autre chose aussi, c'est que voilà, je gère encore énormément de choses. J'ai pas encore tout délégué, donc c'est assez dur. J'ai réussi de temps en temps à le faire. J'ai la chance d'avoir une entreprise dans l'industrie, ce qui fait que le mois d'août, toutes les usines ferment et forcément, l'activité est réduite un peu, mais j'ai pas encore réussi à avoir vraiment cette capacité de dire là je prends une semaine, même si on est en février, c'est pas grave, j'arrive pas encore à le faire ça.
Attends, ça tombe bien que tu viennes là-dessus parce que je voulais y venir justement, mais tout à l'heure en début d'épisode tu nous as parlé du staff, de se faire entourer, donc ça veut dire aussi de déléguer. Allez Coralie, hop, il faut trouver, il faut trouver non pas les bonnes personnes, il faut trouver le courage de déléguer.
Ouais, il y a une notion de courage, c'est vrai, mais il y a une notion aussi d'articulation avec la réalité économique de l'entreprise, parce que voilà, aujourd'hui, avoir des salariés, avoir une équipe en interne, ça coûte énormément. Et puis après, quand on a géré la société depuis le début et qu'on était sur tous les sujets, il y a aussi une éducation à faire des interlocuteurs. Et ça, c'est difficile. Des fois, j'ai l'impression que je réussis plus, enfin, que je vais plus vite dans certains process parce que c'est moi l'interlocutrice. Donc oui, il y a une notion de courage, je te l'accorde. Mais il y a vraiment une vraie articulation à faire et bon, c'est du temps, de l'argent, enfin c'est un peu de tout en même temps quoi.
L'essence même du podcast, c'est comme je le disais, d'aider les sportives et les sportifs de haut niveau à partager un petit peu leur quotidien, voir comment est-ce qu'ils financent leur carrière. Toi t'es plus sur le financement de la carrière d'une sportive de haut niveau, par contre t'es sur le financement de ta vie d'entrepreneur et de ta boîte. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui sont sportifs de haut niveau ou qui vont le devenir et qui ont aussi des velléités, des objectifs de devenir entrepreneur?
Alors déjà quand on est sportif de haut niveau, je trouve que depuis quelques années il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, les acteurs locaux sont de plus en plus présents. Moi, je me rappelle avoir été énormément aidée par mon club et le département de l'Eure et la région de Normandie. Et du coup, derrière, j'avais quand même fait des dossiers pour trouver des partenaires privés, parce qu'il y a une réalité économique aussi quand on est athlète de haut niveau, pour se déplacer, pour financer vraiment sa pratique. Et ceux qui veulent devenir entrepreneurs, alors moi, je dis un truc, c'est que l'entrepreneuriat, ça reste quand même un sport de riche, parce que y a une vraie réalité, c'est que tu te payes pas avant un moment. Toutes tes économies, moi, c'est ce qui s'est passé d'étudiante, je les ai toutes mises dans mon entreprise. Alors, c'était pas grand-chose, hein, à 21 ans, mais voilà, faut être prêt à se dire que pendant un petit moment, tes ressources vont quand même aller vers l'entreprise. En France, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour les startups et les sociétés. Franchement, là-dessus, on le dit pas assez, mais il y a vraiment beaucoup de dispositifs, mais pour l'entreprise. À titre personnel, tu peux pas te verser de l'argent n'importe comment, donc c'est très difficile d'en vivre. Moi, honnêtement, j'ai eu la chance, c'est que pendant 6 ans, j'étais accompagnée, j'avais un compagnon et on vivait chez lui, et du coup, j'avais pas de frais de loyer, enfin voilà, d'électricité. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, donc il me permettait d'investir tout ce que du peu que je gagnais dans ma société. Donc je sais que c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que c'est pas la partie la plus simple. Moi, j'avais clairement pas les parents. Enfin, ils avaient pas les finances pour me supporter sur toutes ces années. Donc voilà, pour moi, la réalité d'un entrepreneur, en tout cas quand on est jeune. Parce qu'après, il y a des gens, ils ont mis des économies depuis un moment et voilà, ils peuvent quitter leur boulot et amortir pendant 2-3 ans.
Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. En France, le plus gros investisseur dans les startups, c'est souvent Pôle emploi, qui te permet d'avoir à peu près 2 ans de visibilité sur un minimum de salaire et qui te permet de, comme tu disais, flécher toutes les autres sources vers l'entreprise.
Oui, c'est vrai que moi, ça a été un peu difficile puisque j'ai développé l'entreprise pendant mes études et que quand je suis sortie des études, je suis allée tout de suite dans mon entreprise. Je n'ai jamais eu le chômage, je n'ai jamais eu des aides personnelles. Donc,
oui, tu n'as jamais été salarié, donc tu n'as jamais cotisé, donc tu ne pouvais pas bénéficier de cette assurance chômage.
Exactement.
Encore une fois, c'est tout à ton honneur. La prochaine est pas trop loin et on est bientôt à la ligne d'arrivée. T'inquiète, ça va bien se passer.
Pourtant, la dernière, elle fait peur, hein, toujours.
Ouais. Coralie, je termine toujours le podcast avec le même genre de questions. Si tu pouvais te projeter à côté de la, entre guillemets, petite Coralie de 20 ans qui a cette idée de surchaussures pour les pointes d'athlée et que elle connaissait exactement le futur qui va lui arriver. Donc, la Coralie d'aujourd'hui qui était projetée à côté de la Coralie de 20 ans. Qu'est-ce que tu penses que Coralie de 20 ans dirait, te dirait, dirait de toi en te voyant ?
Waouh !
Ah, tu t'attendais pas à celle-là, tu l'as pensée dans l'autre sens. Hein.
Oui, exactement. J'étais en train de réfléchir à une réponse dans l'autre sens. Je pense qu'elle serait très fière de ce que la Coralie de 26 ans a accompli en quelques années. Et puis... ouais, dans l'autre sens, c'est assez drôle. Ouais, je pense qu'elle serait fière et elle aurait envie, en tout cas, si elle devait se relancer à 20 ans, de le refaire, quoi. Il n'y a quasiment rien acheté et je referais, elle referait pareil, quoi.
Et du coup, qu'est-ce que tu lui répondrais, toi ? Si elle te disait ça, si elle te disait ouais, « je suis trop fier de toi, regarde où t'en es, c'est génial, ça me donne la patate, donc j'y vais encore plus », qu'est-ce que tu lui répondrais ?
Je pense que je lui dirais que je la préviendrai en fait. Je lui dirais « ça va être génial, ça va être la meilleure aventure de ta vie, ça va être très dur, il y a des moments où vraiment tu vas douter, mais lâche pas, clairement lâche pas ». Tu le verras, lâche pas, ça vaut le coup.
Merci beaucoup Coralie pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, suivre l'actualité de Cayena et puis voire même passer à la caisse si on a envie? Alors je précise que le podcast n'est pas sponsorisé, hein. Je voulais juste te donner la parole à toi.
Alors Cayena, on retrouve sur notre site internet cayena.com et puis bien sûr on a nos réseaux sociaux sur le Instagram Cayena avec 2-8 Et puis aussi, ce qui pourra avoir vraiment l'actualité de Cayena, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site internet dans le footer ou dans la page contact et vous inscrire à notre newsletter où on partage l'actualité de Cayena, l'actualité sur l'athlétisme et voilà, on espère que vous vous régalerez.
Bon, mais j'espère que du coup, le podcast apparaîtra dans la newsletter ou du jour où on diffusera l'épisode.
Ça, c'est certain, avec plaisir en plus.
De toute façon, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. On te souhaite une bonne continuation et puis là tu vas enchaîner sur l'entraînement maintenant, c'est ça?
Alors juste avant, je viens de récupérer du stock de l'usine, donc je vais faire ma petite partie inventaire, pas la plus drôle mais voilà, donc je vais ranger le stock et puis ensuite non, pas d'entraînement ce soir, voilà, je vais aborder le week-end sereinement.
Bon week-end, à très bientôt.
Merci beaucoup pour cette opportunité et puis à très vite. Ouais.
Ciao.
Salut.
Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Coralie Gassama que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Coralie et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partager leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs !